Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Au programme de cette émission, on a quoi? On a de l'IndyCar en Iowa, je crois, double ration puisqu'il y avait deux courses, et on avait de la NASCAR du côté du Texas, et on essaiera de parler aussi un petit peu, de présenter rapidement le Kansas et de donner deux, trois infos sur Daytona si on a le temps, mais ça, on verra. Pour parler de tout ça, Lilian est là. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et Aloïs, bien évidemment. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
Alors, messieurs, on va commencer avec l'IndyCar, qui était donc du côté de l'Iowa, non pas pour une, mais pour deux courses. Comme ça, on en a pris pour 15 jours, on est tranquille, on n'aura pas à en parler la semaine prochaine. C'est un peu l'idée quand même du calendrier IndyCar. Donc, on a fait un tiers de la saison maintenant, puisqu'on est à 5 courses, si je dis pas de bêtises. Non, on est à 6 courses.
On est quasiment à mi-saison, hein.
On est à 6 courses, ouais, c'est ça.
On a 6 courses, ouais, ça. On a 6 courses sur les 14, donc on est presque à mi-saison. C'est dingue. Pour un championnat, on a l'impression qu'il pris il y a 3 semaines. Que dire sur la première course? Simon Pagenaud part dernier et va gagner, messieurs. Comme quoi, en IndyCar, sur la Iowa, on peut doubler. Ça a été compliqué. Enfin, c'est pas forcément la piste la plus simple, mais une bonne stratégie aussi de Pagenaud, bien aidée par une neutralisation à qui tombe, faut le dire, au bon moment pour lui, même si c'est pas lui qui la déclenche. Hein. On est d'accord, Lilian.
Ah oui, c'est clair, oui. Bah, Dixon, c'est pareil, hein.
Oui.
Voilà, il fait pareil. Les deux sont vraiment très, comment dire? Ils ressortent vraiment vainqueurs de ce drapeau jaune. Ouais. Sinon, c'était plutôt à la régulière, ça aurait été New Garden.
Ouais, c'était New Garden était quand même parti pour nous faire deux courses au-dessus de la mêlée, comme il en a un petit peu pris l'habitude sur la Iowa Speedway ces dernières années quand même.
Ah oui, non, mais il a clairement, je pense, trouvé quelque chose, des réglages que les autres n'ont pas. Et ouais, c'est son jardin. Clairement, depuis quelques années, c'est son jardin.
Donc voilà, il n'a pas pu gagner la première. C'est Simon Pagenaud qui s'impose et qui au final met fin à l'hégémonie de la Ganassi qui avait gagné les 4 premières courses de la saison avec Dixon et Rosenquist.
C'est ça.
Donc voilà, c'est enfin la Penske qui gagne dans son championnat, si on veut résumer de manière un peu triviale et on va dire vulgaire, mais voilà, c'est vrai que depuis que Penske a racheté le championnat, on se dit que c'est un peu le championnat de la Penske, même si je pense qu'en termes d'équité, il y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Alors, on l'a dit, Simon Pagenaud qui gagne cette première course, Lilian, une course finalement assez calme et juste un drapeau jaune qui tombe en pleine séquence de ravitaillement sous drapeau vert et qui met bien le bazar quand même, faut être honnête.
Bah, comme tu l'as dit, hein, ça tombe en pleine salle de ravitaillement. Il y a des vainqueurs, il y a des perdants. Voilà, New Garden, clairement, ça lui a mis du plomb dans l'aile. Et puis, bah, par contre, son coéquipier Simon Pagenaud, qui, tu l'as dit, partait du fond de grille, bah, lui et aussi Scott Dixon, hein, qui encore une fois continue d'avoir la baraka. Est-ce que c'est la chance du champion? On en reparlera en fin de saison. Mais clairement, là, je vais rester sur Dixon, mais c'est vrai que. À part une course 100, c'était la deuxième course, c'était un Road America. Sinon, soit il est devant parce qu'il a les réglages, ou alors c'est parce qu'il a le drapeau jaune pour lui, quoi.
Effectivement, la chance du champion. Mais bon, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas, Loïs?
Bah, faut bien que ça arrive à quelqu'un.
Bon, dit-il, tu nous mets une pile au pronostic, ça va être la chance du champion, ça ne peut pas être autre chose.
Mais en tout cas, on attendait Penske à Indianapolis. Au final, on a eu Penske à Iowa. Puisque Simon Pagenaud gagne la première course, Joseph Newgarden était dans le coup, a même mené un bon moment. Et justement, ce Joseph Newgarden bah, atomise la concurrence lors de la seconde course avec Will Power dans ses roues.
Effectivement, ça a été encore une fois tout pour la Penske sur la seconde course, avec un Newgarden qui partait en pole position, qui nous a fait un petit peu comme l'année dernière, une course bien dominée, même si par moments dans le trafic, et ça a été le cas pour Newgarden, mais ça a aussi été le cas pour d'autres tout au long du week-end, on était capable de perdre 3-4 secondes en très peu de tours.
Après, Iowa, c'est quand même un circuit qui est assez abrasif. Donc, c'est sûr que les pneus ont quand même joué un rôle assez important. Et n'étant pas un très grand speedway, l'avantage aérodynamique n'était pas aussi prégnant qu'à d'autres, au Val d'Amalémie, par exemple.
Et effectivement. Et puis, après, les différences de vitesse sont pas forcément très importantes en IndyCar, ce qui rajoute aussi à la difficulté de doubler des pilotes. Et notamment des leaders quand ils reviennent sur les retardataires. Ils arrivent facilement à revenir certains sur les retardataires. Et après, pour doubler, c'est parfois très très compliqué. C'est pas du mono trajectoire en Iowa, mais bon, c'est quand même, dès qu'on est un petit peu sur la trajectoire un peu plus extérieure, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, la Penske a dominé, c'est clairement l'enseignement du week-end. Par contre, les Lions, il y a quand même quelque chose sur lequel on peut revenir. Durant la première course, on n'est quand même pas passé loin d'un drame épouvantable et monumental avec l'accident de Rinus Vicky et Colton Herta.
Ça a déjà permis de mettre en avant le nouveau dispositif de sécurité de l'IndyCar, donc à savoir l'aéroscreen. Donc pour ceux qui se souviendraient pas des faits, donc on a donc le fameux drapeau jaune qui est arrivé en pleine salve de ravitaillement, donc c'était le premier. Il me semble. Et sur le soi-disant restart, le restart est avorté. Apparemment, le spotter, enfin, ou du moins Colton Herta, n'entend pas le message de son spotter qui lui dit que le restart est avorté. Et il va s'encastrer dans Rinus Vicky qui est devant lui, se retrouve plus ou moins à cheval sur sa monoplace, et après finit par décoller et va escalader le mur safer avant de retomber, heureusement, sur ses roues. Ou du moins, ce qu'il reste. Oui.
Mais c'est ça. Mais c'est le problème, c'est que l'IndyCar dit go, donc les spotters disent go, et puis l'IndyCar se rend compte que il y a un truc qui ne va pas, et ils disent non, on n'y va pas finalement. On reporte le restart d'un tour. Et il y a un moment, une fois qu'on a dit go, on a dit go, quoi. C'est soit t'es pas sûr et tu dis pas go et tu vérifies, soit je pense que là la responsabilité elle est du côté de l'IndyCar, c'est pas du côté de Vicky ou d'Herta qu'il faut chercher un coupable.
Il y a plus de responsabilité, ouais.
Ouais, non. Et puis, mais ce qui me fait aussi toujours sourire, c'est que ces monoplaces sont censées ne jamais décoller.
Oui, enfin, déjà à l'époque la DW12 était censée plus protéger les roues. Alors, je me rappelle de ces horribles, ce qu'ils appelaient les pods, qui étaient à l'arrière des roues, là, c'était très, très laid. Ça n'empêchait pas les voitures de décoller, hein.
Non, ça n'a jamais empêché.
Il n'y a qu'à demander à Dario Franchitti.
C'est ça. Et toutes les monoplaces.
Oui, il a quasiment laissé la vie. Ouais. Il a d'ailleurs la fin de sa carrière. Mais oui, voilà. Après, on a quand même une belle amélioration d'un point de vue sécurité qui a été trouvé avec cet aéroscreen. Et là, ça a déjà été mis en avant après seulement à ce moment-là, 5 courses.
Effectivement. Aloïs, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cet accident? Non. A priori, Aloïs ne veut rien dire du tout. C'est pas grave, Lily, on va continuer quand même.
Si j'avais oublié de rallumer mon micro.
bravo.
Non, je suis d'accord avec vous. Par rapport à la responsabilité de l'IndyCar, si tu décides d'une direction, donc le restart ou non, faut s'y plier et faut pas changer au dernier moment. Et on sait que l'effet de l'élastique est très marqué en fond de peloton où se trouvaient justement Rinus Vicky et Colton Herta. Donc oui, coupable IndyCar et chanceux Vicky.
Effectivement. Et je voulais revenir aussi Lilian.
Ouais.
Je suis désolé, on fait un peu l'émission, on remonte un petit peu dans le temps, on fait pas forcément d'un ordre chronologique, mais c'est cette première neutralisation. Je sais pas si tu te souviens à quoi elle est due.
C'est pas l'accident de Power.
C'est parce que sa roue n'est pas serrée.
Ah oui, exact. Je c'est sur la première. Oui.
Et
encore une fois, grosse blague au niveau des arrêts chez Penske. Enfin, cette saison, c'est quand même une grosse blague, quoi. Toutes les semaines, sur un des trois pilotes.
Non, mais c'est ça, c'est au moins une fois par semaine, tu sais qu'il y a une bourde.
Il y a une bourde, quoi.
Mais là, enfin, hormis la bourde dans les stands, on va rester sérieux 2 secondes. La roue qui se détache comme ça manque de shooter, je ne sais plus quel pilote. Enfin, d'ailleurs, ça passe, je crois que ça passe juste devant Willpower. Je crois que c'est Willpower qui manque de reprendre sa roue.
Oui, exact.
Mais je veux dire, il y a un moment, quand est-ce qu'on va mettre des amendes monstrueuses pour ce genre de conneries et d'aberrations? Je veux dire, c'est juste pas possible. On te dit, on te vante la sécurité dans tous les sens au niveau de l'IndyCar, et là, on te laisse passer des trucs comme ça. Mais c'est juste un scandale. Je veux dire, le mécano, faut le licencier sur le champ, quoi.
Licenciement sur le champ, c'est un petit peu fort de café quand même.
Bah, limite, il essaye de. Il laisse le pistolet enclenché sur l'écrou pour faire un ajustement. Alors, il fait l'ajustement, mais il oublie d'appuyer sur le pistolet, quoi. Si tu fais l'un ou l'autre, tu fais pas les deux en même temps. Si tu n'arrives pas à faire les deux.
Les erreurs, ça arrive à tout le monde, aux pilotes les
Après, il y a une
premiers.
telle pression à ce niveau-là.
Ah ouais, non,
Non,
mais.
mais des suspensions, des remises à niveau, des contrôles, oui, bien sûr. Le licenciement, faut pas abuser non plus.
Tu
Je
dis
me
ça
doute que
parce
tu
qu'il y a.
joues l'avocat du diable dans cette situation, mais oui, il faut quand même des répercussions pour ce genre d'erreur. On est d'accord, c'est comme des pilotes qui font des erreurs. On en reviendra, je pense, certainement en NASCAR d'ici quelques minutes, mais dès que tu fais une erreur en piste, tu devrais quand même être tenu responsable pour un quelconque manquement.
Et là, c'est un manquement sécuritaire, quoi, en plus. Hein. Je veux dire, tu t'envoies une monoplace à 300 avec une des roues qui n'est pas fixée.
Et étonnamment, il a réussi à faire un tour. C'est ça
Oui,
qui est quand même fou.
c'est ça. Mais enfin, c'est. Ben, je ne sais pas, quand tu vois cette image-là, il a beau être 4 heures du matin en France le samedi, Lilian, enfin, tu fais un bond sur ta chaise, quoi.
Ah non, non, c'est clair. Non, mais c'est.
Te dis, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose, quoi.
Et encore pire, c'est un mécano de la Penske. Je trouve que tu vois, tu parlais que justement, voilà, c'était la série de Roger Penske. Je trouve que voilà, c'est la top team, c'est l'écurie du propriétaire de l'Indianapolis Motor Speedway.
De la série, ouais.
Ouais,
Et
ouais,
puis,
ouais. Enfin, tu
et
vois,
enfin,
je trouve,
dire,
c'est. Et puis depuis le
c'est la
début de la
Penske.
saison, c'est pas comme si c'était la première.
C'est la Penske, c'est des mecs qui s'entraînent, quoi. Enfin,
Oui, voilà, non, c'est clair.
je dis pas que dans les petites structures, ils ne s'entraînent pas.
Mais
C'est
ça a
pas
un
possible.
retentissement d'autant plus fort quand c'est la Penske, en
Et puis,
IndyCar surtout.
je veux dire, le mécano, s'il est honnête intellectuellement, une demi-seconde, il sait très bien qu'il n'a pas verrouiller la roue, quoi. Il n'a pas appuyé sur le pistolet, que la roue n'est pas serrée. Il le sait.
Et en plus, c'est la série principale du patron, hein. Parce que, bon, là, on le voit plus beaucoup avec le Covid, mais en temps normal, il est sur les circuits IndyCar, pas NASCAR quand il y a les deux, hein.
Quand il y a les deux, oui, ça, il en est niqué. Donc voilà, c'était un peu
C'est vrai
chaud.
que j'avais oublié ce
Très,
petit
très
détail
chaud.
de la course, ouais.
Petit détail,
Et
lourd de
potentiel.
conséquences
Oui,
pour
voilà,
Power,
c'est ça.
mais qui aurait pu être beaucoup plus lourd de conséquences, enfin, parce que la roue, quand tu vois comment elle part, elle peut partir dans l'autre sens, dans le public, enfin, ça peut toucher quelqu'un.
Il y avait du public.
Ah ouais, il y avait du public, je crois.
Non, mais je plaisante.
Ouais, il y avait du public,
Ah
clairement, trois
bon?
pelés de tondus, mais en fait, ce qui est bien, c'est que sur les courses IndyCar, t'as autant de public que sur les courses NASCAR, maintenant. Comme ça, il n'y a pas de jaloux.
C'est l'inverse, ouais, t'as autant de pub, ouais.
Oui, enfin, ou tu le prends dans l'autre sens, comme tu veux, ça fait toujours le même nombre, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses sur ce double header de l'Iowa, messieurs?
Bah, qu'encore une fois, les McLaren ont le rythme.
Oui,
C'est vrai,
les McLaren,
c'est vrai.
et les deux.
Les deux, surtout.
Donc,
Parce que Askew et Howard font 3 et 4 sur la première course. Et Askew est encore dans le top 10, sixième.
Il a calé sous drapeau vert pendant un arrêt.
Oui.
En plus. Mais en tout cas, les McLaren, je pense que c'est la bonne surprise de cette saison. On arrive à mi-saison, mais on peut tout de même annoncer que les McLaren, eh ben, c'est pas une arrivée ratée.
Ah, et puis surtout quand tu
Après,
vois le line-up, quoi.
oui.
Surtout. C'est pas non plus, enfin, c'est pas du gros nom, quoi.
Ouais, après, c'est bon, t'arrivais quand même avec le soutien Schmidt. Enfin, en gros, c'est la Schmidt que tu débadgeais et que t'appelais McLaren. C'est pas non plus une écurie qui arrivait toute seule et qui devait tout construire et partir de zéro.
Mais
Donc,
elles ont trouvé les bons réglages, au contraire de la Andretti, par exemple.
c'est exactement ça.
Alors,
Mais
Andretti, ouais, c'est très, très, très compliqué encore, hein.
en fait, c'est Alonso qui doit avoir les boules parce que. Quand il est là, ça marche pas, et dès qu'il s'en va, ça marche, quoi.
Ou alors, il y a un lien de cause à effet, je ne sais pas.
Bon, j'irai pas jusque-là non plus, mais enfin, c'est pas la première fois que ça y arrive, parce que je crois que c'était déjà le cas chez McLaren en formule. Mais
bon, ouais, mais là, Renault, ça marche pas en Formule 1, ça marchera peut-être avec lui.
C'est ça. Bah, ils ont peut-être des moteurs de GP2 en ce moment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, un petit peu sur toute la Iowa. Je pense qu'on a été.
La deuxième course a été plus calme,
assez
il y a eu
complet.
Moins de
ouais. La seconde course est plus calme. Ouais, donc, est-ce que tu veux rajouter aussi domination de la Penske avec McLaren, victoire logique de Newgarden? Non, après.
Pagenaud qui termine 4.
Oui, c'est ça. Encore une fois, contraint à la remontée. Ah, si, un mot sur les qualifications. Le système des qualifications. Deux tours lancés. Le premier tour pour la course 1. Le second tour pour la course 2. Vous en avez pensé quoi?
Original. Ça a
ouais,
ça change d'habitude. Et puis, ça offre quand même une certaine incertitude sur les deux courses en l'espace de quelques secondes. Donc, non, franchement, ça fait le taf, quoi.
Oui, c'est pas déconnant, et puis ça fait qu'une seule séance qualificative.
Je trouve que, alors oui, comme je rejoins Louis sur le fait que ce soit original, après, comme c'est deux tours lancés, souvent, si t'es bon sur le premier, t'es bon sur le deuxième, quoi.
C'est la Iowa, quoi. C'est pas non plus Indianapolis où tu peux avoir des différences.
J'avoue, j'ai pas pris le temps de comparer les deux grilles de départ. Mais bon, ça doit être à peu près assez similaire, je pense.
Ouais, il y a une belle similarité.
Donc, mais pourquoi pas, ouais, ça a le mérite d'être original, c'est clair.
Oui, Newgarden était deuxième de la première qualif, il est premier de la seconde. Et je crois que le poleman de la première qualif est troisième de la seconde. C'était Connor Daly.
Oui, c'est ça, oui, il a mené, ouais. Il a fait la pole, ouais.
Voilà, quoi, il y a de. C'était original, ça a permis d'avoir deux grilles de départ sans se dire on inverse le top 4, le top 8, toute la grille.
Mais en tout cas, Pagenaud, sacré client quand même sur Oval. Depuis qu'il est arrivé chez Penske, c'est quand même un sacré pilote sur Oval maintenant.
Il a pris une certaine dimension.
Je me rappelle avoir dit il y a quelques saisons, quand il était encore justement chez Smith, qu'il cartonnait sur routier. Je me disais, le jour où il sera bon sur Oval, ça va être quelque chose. Et puis en fait, malheureusement, maintenant, il est en difficulté sur les routiers et les urbains. Et il est très, très bon sur Oval.
Enfin, il est en difficulté. Il y en a beaucoup qui pourraient être en difficulté, comme lui, sur les ovales et sur les urbains. Hein,
le double et d'or de Road America, c'était pas terrible. Hein.
Oui, écoute.
À peu près comme toutes les Penske, j'ai envie de te dire. Hein.
Quand on voit ce qu'il est capable de faire maintenant sur Oval.
Mais c'est pas pour rien qu'il est champion en IndyCar, j'ai envie de te dire. Hein.
Ouais, mais maintenant, les circuits routiers ou urbains le pénalisent. Avant, c'était l'inverse. C'était les speedways.
Ouais, et puis là, c'est pas comme s'il ne restait plus qu'une seule course sur Oval d'ici la fin de saison. Deux, pardon. Puisque ça doit être Indianapolis et la semaine dernière.
Il reste Gateway et Indianapolis, ouais.
Ça, dans l'ordre, Indianapolis puis Gateway. Mais,
C'est ça.
Donc voilà un petit peu pour la partie IndyCar, messieurs. Allez, Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Ah, j'ai commencé avec mon j'aime, ça te concerne, mon Geoffroy. C'est monsieur MacGyver pour bricoler une connexion Wi-Fi potable, parce qu'il y a eu quelques difficultés de connexion, Geoffroy.
Quand on est dans le tiers-monde de la France.
Croyants apprécieront le tiers-monde.
Ouais, j'ai pas dit le tiers, j'ai dit le quart.
Et il nous a trouvé des solutions, enfin, avec un bout de fil de fer et puis un vieux transistor, il nous a fait un truc du tonnerre.
Bob le bricoleur.
C'est clair.
Et ton j'aime pas, du coup?
Ah, moi, j'aime pas, c'est Kate Bush qui continue à faire sa pleureuse.
Non, je suis pas d'accord. Non.
Ah, je te l'ai piqué.
Non, je suis pas d'accord, par contre, là.
Non, mais alors après, c'est peut-être pas pour la même chose. C'est quand il se fait interviewer à l'issue de sa victoire en truck, et puis quand on lui parle de la Xfinity, hop, il prend la mouche. Parce qu'il a été disqualifié, le bonhomme.
Bon, ça va, tu parles de ça. Je pense que tu faisais référence à sa sortie de voiture en cup.
Ah, tu pourras nous dire de ce qu'il en est. J'ai pas suivi.
Bah, on en reviendra parce que c'est pas dans mes j'aime, donc.
Ok, bon. Ah. Bah, allez, tu peux y aller.
Vas-y, Alice.
Et bah, du coup, moi, j'ai deux j'aime cette semaine. Le premier, c'est notre magnifique tir groupé dans les pronostics sur la deuxième course d'Iowa. 22e, 20e et une petite erreur de ma part.
Ah, il pronostique quelqu'un qui n'est pas engagé et c'est pas faute de lui avoir dit plusieurs heures
Et oui.
avant.
Non, mais c'est vrai, j'accepte l'erreur. Mais du coup, 3 points à nous 3, franchement, bravo, bravo.
C'est le talent.
Voilà, on va dire. Et du
Et
coup,
ton second j'aime.
mon second j'aime, c'est l'achat que j'ai fait ce jour-ci, donc le jour où on enregistre. C'est bon, j'ai passé un level et j'ai acheté un vélo de route.
Ah, d'accord, je pensais que tu avais acheté des volets silencieux pour pas qu'on entende la pluie.
Ça, c'est pas encore prévu. Ou alors, tu peux envoyer une lettre à mon propriétaire. C'est comme tu veux, tu choisis.
Non, ça, non, faut que je paye un timbre, ça va pas. Je suis un timbre pour la France quand t'es en Alsace, ça coûte
Ah bah oui, hein, la frontière, les frais de douane, hein.
cher. C'est ça.
Mmh.
Bah écoutez, je vais y aller avec mon j'aime. Vu que vous ne l'avez pas piqué cette semaine,
Ah.
bande de saligauds, c'était notre ami, comment qu'il s'appelle? Non, c'est pas Mehdi Benedetto. Qui c'est qui a revendu le pare-choc
Michael
de.
McDowell.
C'est Michael
Ah
McDowell qui
ouais,
a
je te l'ai
revend le.
laissé, tu l'avais dit, tu le voulais celui-là.
C'est Michael McDowell qui a revend le pare-choc de Bubba Wallace aux enchères pour la bonne cause. Non, mais. Au final, l'action est louable, hein, je veux dire, pour
Symbolique, je
lever
trouve.
des enchères pour la fondation de la NASCAR, c'est très très bien. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le truc, ça m'a fait sourire. Et en plus, il dit qu'il a trouvé ça sur le pas de la porte du camion de son équipe. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très drôle, vu qu'on avait fait tout un foin la semaine dernière. Voilà, c'était sympathique. Et mon j'aime pas, bah ça rejoint un peu ton j'aime, Lilian, c'est devoir bricoler comme ça quand c'est le bordel, quand t'es à l'hôtel, c'est un truc de fou quoi.
Aloïs, chez moi, ça me fait bien marrer, quoi. On t'entend jurer, on t'entend râler, puis nous on discute tranquille.
Oh putain, ça
C'est
marche pas.
quand on t'entend,
C'est
parce que des fois on t'entend hurler de loin, puis nous on se marre et puis on discute tranquillement.
Non, mais les gars, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, c'est que le début. Il va y en avoir encore pour quelques semaines. Mais bon, mais pas à trois, dans une autre ville française un peu mieux.
Après, tu fais ce que tu veux dans les chambres d'hôtel, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
Ah, si tu savais,
Non,
si tu
mais
savais, si tu savais, tu serais jaloux.
c'est pas grave.
Allez, Lilian, la NASCAR, je ne sais pas si ça te parle. Alors, pour te
Si,
resituer,
si,
c'est au
si.
Texas,
Le
un État
PG1.
plutôt sud, avec du PG One, effectivement.
Il a fait chaud, très chaud.
Ouais, ça a glissé un petit peu, surtout pour Johnson.
Pas que, mais oui, Johnson, oui, c'est bien. Oui, il a bien tâté du muret en sortie de virage 4.
Ça a bien glissé aussi pour Kyle Busch. Pas sur le goudron, mais ça a bien glissé quand même.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, au final, on pensait une
Et
victoire
quelle
facile
finale?
d'un pilote Ford, hein, on est d'accord? On pensait
Ryan
que
Blaney?
c'était un Ryan Blaney ou un Kevin Harvick qui allait nous sortir une victoire en
Blaney a
ayant
gagné
dominé
les deux
la
premiers segments.
tête et des épaules. Ouais, c'est ça, Blaney qui a les deux premiers segments. Ce qui ne lui était plus arrivé, je crois, depuis 2017.
Oh, oui, ils ont donné la stat, j'ai oublié sur quel circuit c'était, mais oui, ça
Mais
doit être
c'est
ça.
ses premiers segments de l'année déjà.
Non, tu bluffes.
Je crois bien.
De
Non,
l'année. Ah
tu.
ouais?
En 2020, je crois que c'est ses premiers segments.
Oh, tu
Hormis
bluffes.
sa victoire à Las Vegas, je peux me tromper?
Ouais, je pense. Écoute, je vais vérifier en même temps que je te parle, si j'arrive à avoir les infos sur le PC.
Bah, ah, du
Bon.
coup, t'as les dégâts aussi, c'est sa victoire à Talladega.
Mais donc, attends.
On a eu une grosse bataille entre Hamlin et Ryan Blaney pendant une grande partie de la course.
Oui.
Et ça s'est terminé mal pour les deux pilotes au final.
Ça s'est terminé pas forcément, effectivement, très très bien. Et, je sais que ça te fait plaisir à Loïs, son retentissant doublé de la Richard Childress Racing que tu attendais, que tu appelais de tes voeux depuis 2011 au final. Hein,
C'est ça,
parce que
2011.
Ses prières ont enfin été entendues.
Ça faisait 9 ans que la RCR n'avait pas fait un doublé. Pour vous donner une idée, à l'époque, Jeff Gordon était encore pilote à plein temps. Danny Kilpatrick était dans ses premières années en NASCAR, en tout cas en Cup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait
Oh,
Trevor
Tony
Bayh qui
Stewart,
avait gagné
peut-être.
les Daytona 500. Enfin, on avait
Hein?
Tony Stewart qui était champion pour la troisième année en 2011.
Arrête, c'est
Donc,
déjà en 2011 le Daytona 500 de Trevor Bayne?
ah ouais.
il me semble bien que c'est 2011, oui.
Waouh, le coup de vieux, punaise.
2011 ou 2009?
Ouais. Ah non, pas 2009, j'aurais dit 2012, tu vois.
Non, 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 c'est vraiment très loin. 2012, ça doit être McMurray ou Ken 7.
2011, non, c'est bien 2011.
Ouais, c'est 2011. Donc, voilà. Et à l'époque, à la RCR, c'était Clint Bowyer, qui depuis, quand il est passé par la Michael Walsh Racing, et a fini à la Stewart Haas. Et c'était Jeff Burton, qui depuis a fini sur NBC.
J'ai bien aimé justement la petite remarque de Jeff Burton quand ils ont sorti cette stat. Il a dit j'étais du mauvais côté de ce 1-2, puisque Clint Bowyer
Ouais,
avait
tu
gagné la
m'étonnes,
course.
c'est ça. Et Ryan Blaney, il a 3 victoires de segment hein, cette année. Donc,
Ok.
il avait gagné au moins un segment déjà. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, la RCR qui fait un doublé, Lilian, avec Austin Dillon, qui gagne et qui revient dans le top 16. Et
Ah oui, bah là, il va disputer les playoffs.
à la deuxième place, oui, c'est ça, le rookie Tyler Reddick. Enfin, c'est presque dingue, mais encore une fois, je ne sais pas ce que tu en penses, et je vais arrêter de parler après, mais ça valide tous les progrès qu'on a pu voir du côté de la RCR ces derniers mois.
La RCR, oui, la RCR, on l'a déjà dit, plus globalement, les voitures ayant un moteur Chevrolet. Et puis la nouvelle voiture aussi, la nouvelle Chevrolet pour cette saison qui est quand même bien plus rapide que celle des saisons précédentes. Concernant la RCR, alors c'est clair que le résultat est surprenant, il est inattendu, il est tout ce qu'on veut. Mais quand on voit les derniers restarts, parce qu'il y en a eu plusieurs sur la fin de course, que ça soit Austin Dillon ou Tyler Reddick, voilà, ça a été du très solide. Le clean air prépondérant, comme d'habitude.
Et au final, Austin Dillon qui gagne sa troisième course en carrière à Loïs.
Mais oui, et à chaque fois, ces deux premières courses, c'était sur Super Speedway. Là, c'est sur un ovale d'un mile et demi. Donc, c'était personnellement pour lui, bah, c'était pas un exploit, mais c'était déjà comme ils disent aux États-Unis, un achievement. Il est arrivé à montrer que, je le cite, en sortant de sa voiture, c'est bien pour un homme qui a une cuillère d'argent dans la bouche. Donc, un petit tacle pour les personnes qui critiquaient que c'est le petit-fils de Richard Childress. Enfin, qu'il avait son volant uniquement pour être le petit-fils de Richard Childress. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que le résultat est volé, puisqu'ils ont joué à la stratégie. Ça a complètement fonctionné. Les derniers restarts, bah, Joey Logano, Kyle Busch, Harvick n'ont rien pu faire, très clairement. Ceci dit, ça montre quand même qu'il y a un grave souci cette saison par rapport, un, à la tenue de route des voitures, et deux, par rapport à l'apport du clean air quand tu es en première et deuxième position, et trois, par rapport au putain de PJ One. Non
J'adore
mais,
la
je
conclusion.
pense que ces 20 derniers tours au Texas ont résumé tous les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui en NASCAR.
Mais par contre, il y a un problème dans ta tête aussi, Aloïs, c'est sur tes souvenirs des victoires d'Austin Dillon.
Bah, il a gagné une à Daytona et une à Talladega.
Non?
Non, c'est une à Daytona et un Coca 600.
Et un Coca 600 l'année
600
d'après.
pour moi.
Celle où il fait un ventriglisse avec toute son équipe.
Effectivement. Ah oui.
Dans
Effectivement.
la pelouse du Tréorel, ouais.
C'est ça, on reconnaît les fans de l'Interville. C'était le ventriglisse, hein, Lilian.
C'est ça, c'est toute ma jeunesse, qu'est-ce que tu veux?
C'est ça.
Allez, lâchez la vachette. T'as pas la
Ceci
vachette.
dit, pour revenir à la course, ils ont eu du nez chez Richard Childress par rapport à la stratégie.
Oui.
Puisque Austin Dillon ressort à 25 tours, j'ai plus, je dirais 23, quelque chose comme ça, pour le restart de pneus. Reddick 0, et au final ça finit 1-2 20 tours plus tard devant des mecs qui avaient pris 4 pneus.
Oui. Puis, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui ont voulu re-rentrer, reprendre des pneus neufs, et finalement, la position en piste était préférentielle.
Ben, je crois que Joey Logano s'en est plaint d'ailleurs, il disait que les pneus Goodyear ne s'usaient pas assez vite. cette saison.
Moi, c'est le monde à l'envers.
C'est ça.
Pour une fois.
On se plaint qu'ils font des pneus de merde, et quand ils font des pneus qui tiennent la route, ça dure trop longtemps.
Alors, messieurs, autre perdant quand même, parce que faut en dire deux mots, autre perdant de la course, c'est Jimmy Johnson.
Bah, Jimmy Johnson, tu l'avais dit pendant le direct, pour les playoffs, ça commence à se sentir quand même très très mauvais pour lui.
C'est pas
surtout
le seul,
avec les victoires là, consécutives de Cole Custer et Austin Dillon. Donc ça va être deux tickets qui n'étaient pas forcément, on va dire, très attendus pour eux. Jimmy Johnson, vu ce qu'il nous fait depuis quelques temps, autant c'était rassurant en début de saison, autant ces temps-ci, c'est quand même très 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 compliqué. Et encore une fois, c'était voilà, c'est sur une piste où les victoires à l'époque, il les enchaînait quoi.
Mais
en fait, il
est
à
moi,
9, je crois, à l'heure actuelle.
Ce qui me surprend avec Jimmy Johnson, c'est que je trouve que pour possiblement le pilote le plus expérimenté du peloton en 2020, il commet quand même beaucoup d'erreurs dignes de rookie. C'est mon point de vue personnel. Je trouve qu'il commet beaucoup d'erreurs alors qu'il nous a habitués pendant sa grande époque, hein, pendant tous ses titres d'affilée, à ne commettre aucune erreur.
Et c'est à se demander s'il a peut-être pas fait encore une fois, malheureusement, la saison de trop. Parce que, bon, au-delà de tous ces soucis dus au Covid, on est quand même parti pour avoir un Jimmy Johnson, cette fois champion, donc l'égal de Richard Petty et Dale Earnhardt. Il va quand même quitter la discipline par la petite porte.
Oui, on est
il n'aura pas pu fêter son départ sur toutes les pistes comme Jeff Gordon avait pu le faire en son temps. Et là, c'est vrai, si ça continue comme ça, ouais, Jimmy Johnson, c'est triste. Ouais, il est toujours à la Hendrick, il est dans la même voiture, et c'est très, très, très compliqué, quoi.
Après, on peut pas dire qu'il n'a pas la vitesse, parce qu'encore une fois, au Texas, on l'a vu remonter le peloton en début de course facilement. Il est remonté aux portes du top 10, en quoi avant la fin du premier segment. Et après, bah.
Ouais, mais il n'a jamais été en lice pour la gagne.
Bah, en même temps, il se fout dehors en début de course. Donc, c'est normal qu'il n'était jamais en course pour la gagne sur une course de 500 miles.
Pour l'instant, il est le dernier pilote qualifié. Il a 2 points d'avance sur William Byron, qui est premier éliminé. Et il a 14 points d'avance sur Taylor Reddick, qui est deuxième éliminé. Voilà un petit peu pour la vision d'ensemble de Jimmy Johnson. 15e du classement général, mais 16e du classement playoff, puisque, on l'a dit, Cole Custer a déjà gagné. Il est 22e du classement et est dans les playoffs, puisqu'il sera dans le top 30.
Et puis attends, avec le peu de courses qui restent sur la saison régulière, on n'est pas à l'abri encore d'une victoire surprise. Hein. Il va y avoir des coups de poker de tenter, c'est clair, s'il y a des drapeaux jaunes en fin de course. On n'est pas à l'abri d'un autre vainqueur surprise. Hein. Stenhouse, je dis ça comme ça en passant.
Et tu as deux double headers qui vont faire très très mal.
Ah oui, si tu as des vainqueurs surprise, ça risque de, comme on dit par chez nous, de secouer le cocotier.
Ouais, et puis tu as un final à Daytona.
C'est ça.
Daytona, mais en fait, tu n'es pas à l'abri pareil d'un vainqueur, tu te dis, mais d'où il sort lui?
Deux courses au Michigan, deux courses à Dover qui est très difficile pour la mécanique. Tu as un final à Daytona sur l'Oval, et 15 jours avant, tu as un Daytona sur le circuit routier, dont pour l'instant, on n'a pas confirmation du tracé. Ce devrait être le circuit des Rolex 24, donc le circuit routier classique, mais on parle d'ajouter une chicane, possiblement à l'entrée des stands pour casser un peu la vitesse des voitures. Et normalement, messieurs, quand c'est un nouveau tracé, il y a des essais. Or, la NASCAR a dit qu'il n'y aura pas d'essais au moins jusqu'à Dover. Donc, la question, c'est faut-il des essais? N'en faut-il pas? Un routier que personne ne connaît. D'après, tout le monde peut rouler sur les simulateurs. Hein. Je veux dire, quand Denny Hamlin dit qu'il faut des essais pour qu'on ait les points de repère, sur les simulateurs, tu fais des choses bien maintenant.
Bah, c'est en regardant la course d'Xfinity sur le routier d'Indianapolis. C'est le vainqueur de cette course, Chase Briscoe, a raconté que dès lors que la news était officialisée que l'Indy routier était au programme d'Xfinity, il s'est mis instantanément sur iRacing et a tourné des centaines et des centaines de tours pour être prêt avant cette course-ci. Donc peut-être le décalage de génération joue un petit peu sur ça. Entre la Cup, entre les vieux entre guillemets de la Cup et les jeunes de la Xfinity, Mais à mon avis, le manque d'essai n'est pas préjudiciable. Un, pour le fait que tu as les courses virtuelles. Et deux, parce que depuis le début de la reprise, je ne suis pas certain que les essais, le manque d'essai s'est retrouvé préjudiciable pour grand monde, hormis Kyle Busch.
J'allais le dire.
Hormis Kyle Busch. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a des essais, il faut une voiture, enfin, il faudrait une voiture de réserve. Et s'il y a des essais, ça génère aussi plus de monde, plus de présence sur le circuit. Faut pas oublier qu'il y a l'ARCA, il y a la Truck, il y a la Xfinity, il y a la Cup sur le routier Daytona. Donc ça fait un peu beaucoup de monde au mètre carré.
L'ARCA sur le routier de Daytona, mon Dieu, le carnage.
Et oui. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, vu que les équipes ne peuvent pas emmener de voitures de réserve, vu les plannings qu'on a, du coup, il n'y a pas d'essai non plus. C'est un tout. Et Denny Hamlin disait, bah, sinon, on fait une séance d'essai, et si le pilote il se plante en séance d'essai, vu qu'il n'y a pas de backup, vu qu'il n'y a pas de voiture de réserve, bah, le pilote ne prend pas le départ de la course et est classé dernier. Il proposait ça aussi comme solution. À voir ce que
Affaire à
va
suivre, ouais.
faire. Mais quoi qu'il arrive, sur un circuit routier, je veux dire, j'ai coché la case. Hein. Week-end du 15 août, faut pas me chercher.
C'est clair.
Téléphone est coupé, quoi. On peut essayer de m'appeler, il n'y a personne.
Tu penses qu'un certain Juan Pablo Montoya va faire son retour pour cette course du routier? Ce serait marrant.
Je connais pas par cœur le calendrier de l'IMSA, mais s'il y a une course d'IMSA, non. Ah non, non, il n'y a pas d'IMSA. Puisqu'il y a des pilotes de l'endurance qui sont proposés. Donc, nous, il n'y a pas d'IMSA.
Ça pourrait être intéressant de retrouver des pilotes qui connaissent très bien ce circuit face à des pilotes de Cup totalement novices sur celui-ci. Enfin, pour la plupart.
Ouais, t'imagines un Montoya qui vient qu'en claque une?
Oh, ce serait mais incroyable avec sa bedaine qui se trouve en playoff avec une seule course. Ah bah non, il sera pas dans le top 20. Dommage.
Un top 30.
Top 30.
Ouais, effectivement. Donc voilà, mais ça mettrait bien le bazar aussi au niveau du classement. Ça enlèverait une possibilité de victoire et donc de qualification pour les pilotes réguliers. Voilà un petit peu pour la parenthèse d'Daytona, on a encore un petit peu divergé, on va dire. On est parti très très loin, mais il fallait en parler. Si on revient un petit peu sur la course du Texas, messieurs, il y a quand même aussi un autre point qu'il faut aborder parce que ça a un peu créé une levée de bouclier, notamment du côté de Brad Keselowski qui demande des systèmes de promotion-relégation pour faire simple. C'est Kwinoof, Lilian, qui pour faire simple nous a fait une Dale Earnhardt Junior, à savoir que quand il est
Aïe,
sur la
aïe.
piste, trajectoire extérieure, bah en fait il veut rentrer au stand. Je dis ça, je chambre amicalement Dale Earnhardt Junior. C'est cette image de Loudon 2008, je crois, sur la course du mois de juillet. Il voulait rentrer au stand et l'entrée des stands à Loudon, compliqué. Mais quand tu es tout à l'extérieur, tu es obligé de couper totalement la piste. Il s'était fait toucher par un adversaire, il a fini en tête à queue, et ça m'avait fait bien marrer cette année-là. Et depuis, c'est resté. Un pilote qui est à la droite et qui rentre au stand, ça s'appelle une junior. Mais là, pour le coup, ça s'est mal fini. Il y a eu des pilotes impliqués dans cette affaire.
Je ne me rappelle plus qui, ouais, j'ai plus les images
Christopher
en tête.
Bell et Matt
Christopher
DiBenedetto.
Bell et Matt DiBenedetto.
Merci à Loïs.
Et Kwinoof, n'étant pas Dale Earnhardt Jr., forcément, ça fait grincer un peu plus dedans. Surtout que Matt DiBenedetto et Christopher Bell, potentiellement, ça peut se qualifier en playoff.
Bah, c'est surtout ça, c'est que ça fait plusieurs erreurs de suite, enfin voulu ou non voulu pour Matt DiBenedetto entre Indianapolis et ce week-end au Texas. Mais là, il est vraiment pour rien. Il jouait facilement un top 5 et au final, l'erreur ou de ce que j'ai pu comprendre, l'incompréhension entre Kwinoof et son crew chief. J'ai cru comprendre qu'il s'était mal compris sur le tour où il devait rentrer au stand.
Il y a un spotter aussi, normalement.
Ah oui, on est d'accord. Après que ce soit qu'il ait débranché le cerveau pendant 10 secondes, j'en doute. Je suis plus sur la mésentente, l'incompréhension entre le trio, justement, spotter, le driver et le crew chief.
Oui, parce qu'on jette la pierre à Kwinoff, et le spotter n'a pas été tip-top caviar non plus dans ce cas-là, quoi. Donc,
Mais après, pour en revenir à
avant
l'idée
toute
de
chose.
Brad Keselowski, elle n'est pas conne.
Ah oui.
C'est un tweet, hein, je crois, qu'il a balancé.
Bah, le système de. c'est pas un système de relégation pure et dure, c'est surtout un système de jugement si tu es apte à participer en cup, c'est ça, non?
Oui, et en gros, enfin, si t'es pas apte en cup, tu dégages en définitive, c'est un peu ce qu'il dit, quoi. Mais bon, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Je pense que ça ne se fera pas. Ça
Après,
va
c'est
parler
une idée
sur
qui lance, hein.
circulaire.
Pourquoi pas?
Oui, c'est une idée qu'il lance, mais bon.
Après, c'est sûr que de voir des pilotes comme Cindric, comme Briscoe, comme. Ah mince, le mec de la GR Motorsport,
Noah Gragson?
Noah Gragson, les mecs sont carrément capables de claquer des bons résultats en Cup à l'heure actuelle. Et tu retrouves, sans leur faire offense, des pilotes comme. BJ McLeod, Joey Gaze, Josh Biddicky, pour ne citer que, je pourrais rajouter Brandon Poole par exemple, ou même, comment s'appelle, Greg Holding, que je vois là sur les résultats du Texas. Je suis pas certain qu'ils peuvent carrément jouer la gagne en Xfinity ou même en truck. Donc la question se pose, est-ce qu'on garde les meilleurs pilotes pour la Cup ou est-ce qu'on garde les pilotes qui peuvent se payer un baquet en Cup?
Après, ça, tu vois, ce qui me dérange, Loïs, désolé, Lilian, si tu voulais parler,
Non, mais
mais
vas-y, vas-y,
voilà,
vas-y.
tu dis pilote payant, mais Kouinou, c'est un pilote payant, ça t'emmerde. Brad Keselowski, il est tout autant payant, mais ça t'emmerde pas parce que c'est Brad Keselowski, que c'est Penske, et qu'on va dire que parce que c'est Penske, ça attire le pognon. Mais
Non.
Brad
Ouais,
Keselowski,
mais
il est
c'est pas
plus
le
bon
même
que tout.
niveau,
Non,
c'est pas le même niveau.
ce que je veux dire, c'est est-ce que tu installes une priorité sur bah moi je peux remplir mon calendrier, donc tu me prends, ou est-ce que
Oh bah
tu
non,
juges sur la
je crois
qualité du
pas.
pilote? Je pose juste la question, sur quel est ton point de jugement? Est-ce que la NASCAR ou bien les pilotes ou les équipes ou je ne sais qui va décider de prendre une position par rapport à quel est le système de jugement pour les pilotes qui sont acceptés ou qui peuvent être engagés en Cup dorénavant?
Non, non, il y aura pas de prise de position. Tu viens, il y aura pas de prise de position. Après.
Après, que ça fasse grincer des dents, à peu près tout fait grincer des dents aux pilotes. Donc il faut aussi remettre l'église au centre du village.
C'est ça. Lilian, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Quinouf et sur cette affaire?
Non, 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 pas plus que ça. Après, par rapport aux propos d'Aloïs, moi j'aime assez l'idée, comment dire, je pense que, voilà, que les top pilotes en Xfinity puissent faire quelques piges. En cup, ça mettrait d'autant plus en avant ces voitures qu'on voit pas toujours, voire même très peu, parce que ces pilotes-là, clairement, on les connaît pas, parce qu'on les a pas vus monter en truck, en Xfinity et en cup. C'est des gens qui sortent, sauf si on prend pas le temps de se renseigner personnellement, on sait pas vraiment d'où ils sortent. Alors que voilà, des pilotes comme Gragson, comme Cindric, voilà, c'est des pilotes, on sait d'où ils viennent, ils gagnent les samedis ou les vendredis, ça dépend les jours des courses, dans les divisions inférieures à la Cup. Et quand on les voit arriver, les jours où on les verra en Cup, voilà, on sait d'où ils viennent, on connaît leur pédigré, on sait ce qu'ils valent.
Après,
Là.
pour jouer l'avocat du diable, c'est dans l'ADN de la NASCAR que des petites écuries indépendantes roulent en cup. Que ce soit pour des mauvais ou des moins mauvais résultats.
Ouais, mais tu vois, alors à l'époque, quand on était encore à 43 voitures en cup, on a eu ce phénomène-là des start and park. Bon, pour endiguer ça, on est passé à 40. Et puis au final, on a quand même toujours des très petites structures qui sont là pour faire le nombre plus qu'autre chose. Mais bon, ça va jouer les 5 dernières places systématiquement, ou presque. Est-ce que ça serait pas bien, voilà, de temps en temps, d'avoir un top pilote de Xfinity qui vient, quoi? Et puis qui
Ouais,
vient se mesurer à tout le troupeau de la Cup, et puis à une distance beaucoup plus longue que ce qu'il peut avoir parfois en Xfinity.
le problème, c'est que ça risque de faire chier, par exemple, Roger Penske pour Austin Cindric, Rick Hendrick pour Noah Gragson, et du coup pour Chase Briscoe. Lui, je crois qu'il est affilié plus Stewartas, ou je dirais Stewartas.
Stewart passe.
Stewartas, donc ça ferait
Ouais,
chier.
enfin après ils font des partenariats comme Belda avec la 95 pour la Gibbs.
Oui, il y a peut-être
Après, ils
des
font des
solutions.
partenariats, ils ont les moyens, donc ils te fournissent les moteurs, les bagnoles, et puis c'est bon, quoi.
Ouais, mais du coup, à la fin, tu te retrouves avec 6 écuries grand max en cup. Et du coup, est-ce que c'est toujours juste dans le sens équité?
Bah, est-ce que tu veux une série élitiste ou est-ce que tu veux une
C'est ça.
série complètement traditionnelle?
Mais c'est
Oui,
ça,
non,
ça revient
mais
à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce
c'est
que
vrai.
tu veux que ce soit jugé sur la performance ou est-ce que tu veux que ce soit jugé sur le chèque?
Ouais,
Mais on n'aurait
et
peut-être pas des âneries comme on a pu voir là.
peut-être, ou peut-être que si. Et ces petites équipes, elles ont besoin aussi de ces pilotes-là. Et globalement, d'aller au bout des courses sans trop de soucis pour faire vivre tous les mécanos qui composent la structure. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur le Texas. On a le Kansas qui arrive dès jeudi soir, Lilian, une course en nocturne. Et il y en a beaucoup qui se posaient la question, pourquoi la course du Kansas, elle est jeudi en Cup alors qu'il n'y a rien dimanche? Ah oui,
Bah
pourquoi
pourquoi
la
pas?
course est... Et pourquoi pas? Mais c'est surtout aussi que, si tu remets dans le contexte, on est... Enfin, pour le Kansas, on sera le 23 juillet. D'accord? Ça fera 2 mois pleins que la première division de la Cup est au taquet depuis la reprise, depuis la mi-mai, avec des courses tous les week-ends.
Ils ont enchaîné.
Avec parfois des courses en semaine aussi, ils n'ont pas arrêté d'enchaîner, Aloïs, comme tu le dis. Et du coup, bah, là, ça leur fait 10 jours de pause avant Loudon. Ça va faire du bien à tout le monde de faire une pause. C'est juste ça, quoi.
Bah, le but, tu vois, c'est de faire un mini break, très clairement.
Oui.
Et puis, le déplacement Texas-Kansas est pas très loin. Donc, en quoi? En 4 jours, c'est faisable. Et comme tu le disais, depuis la reprise, c'est quand même 16 courses en 2 mois. Et
Oui.
il y a eu de la chaleur, il y a eu la All-Star entre-temps, il y a eu des double-headers, il y a eu des courses sur Oval à plaque. Ça, je pense que les pilotes ont besoin de ce break également.
Ah oui, et bien sûr, tout le monde a besoin de souffler un
Ce
minimum.
sera le bienvenu, c'est clair.
C'est donc voilà. Donc on se retrouvera nous en fin de semaine avec Lilian pour débriefer le Kansas. Et la semaine prochaine, on retrouvera Loïs, mais ce sera pas l'heure habituelle. Je crois que ce sera peut-être un autre jour, on verra. On parlera justement à Loïs, je sais que ça te tenait à cœur de ce retour parfaitement géré de la NASCAR pour une fois qu'elle a bien géré quelque chose. Je t'entends déjà le dire. Ça te fait sourire, je le
Il y
sais,
a déjà
mais
ces petits papiers qui sont prêts.
ah ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire
Voilà.
sur la prise.
Le mec,
Et
en 2 mois, il a écrit une encyclopédie en 25 volumes, quoi.
non, après, vous savez que deux pièces et le jukebox est lancé. Hein.
Deux pièces? Oh, ouais, j'aurais dit 10 centimes, mais bon.
Il est pas cher, Louis.
Ouais,
Et
ça
c'est
après.
surtout ce briefing, enfin ce débriefing, après 2 mois, il intervient 1 mois avant la fin de la saison régulière. Donc on entrera dans la dernière ligne droite pour se qualifier.
Le
Donc c'est quand
retard
même,
sera rattrapé, ouais.
ça sera quand
C'est
même
ça.
un moment important de la saison.
Oui, tout à fait. On va optimiser les moments creux du calendrier de la NASCAR. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, messieurs. Je présume que vous n'avez plus rien à ajouter.
C'est déjà pas
Sinon,
mal. On a encore fait
ouais.
une demi-heure de 50 minutes.
Je voudrais juste dire que Danny Hamlin a quand même bien chié dans la colle.
D'accord.
D'accord, belle conclusion.
Sur ce, bonne soirée, bonne semaine, à l'année prochaine. Enfin, bref, merci à Louise pour cette conclusion assez magique.
Mais
Mais bon,
quand tu
c'est.
fais une conclusion, tu me la demandes.
Ah, bah, non, 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 je crois que non, finalement, je vais m'abstenir. Je demanderai à Lilian.
Moi, je vais dire vive Richard Virenque.
Bon, bah, sur ces bonnes paroles, messieurs, merci à tous et toutes d'avoir écouté. Rendez-vous en fin de semaine pour le débrief du Kansas. Bonne semaine à tous. Salut tout le monde, bye bye.
À la prochaine, bon courage.
Bonne semaine à tous, ciao.